Conference le 20 septembre 2001 à Saint-Gildas.
Vous voyez comment ces trois théologies, ces trois sagesses, prennent notre intelligence dans ce qu'elle a de plus profond. Pas la raison, mais l'intelligence qui est faite pour l'être, qui est faite pour Dieu. Notre intelligence est faite pour contempler Dieu. Et la philosophie est le moyen, la métaphysique et la philosophie qui se termine en métaphysique est le moyen de développer d'une façon radicale notre intelligence faite pour ce qui est. Et ce qui est, en dernier lieu, c'est Dieu. Le premier être qui est, c'est Dieu, je suis. Et tant que mon intelligence n'a pas découvert l'existence de Dieu, par elle-même, elle reste imparfaite, parce qu'elle n'a pas atteint sa fin, ce pourquoi elle est. C'est pour ça que cette attitude de dire qu'on n'a pas le droit de parler de Dieu, cette attitude de laïcité radicale française, il faut l'appeler par son nom, parce que ça, les autres n'ont pas cette même attitude-là, elle est opposée radicalement à la métaphysique. Puisque la métaphysique n'a pas d'autre but que de découvrir l'existence de Dieu. Et de montrer que découvrir l'existence de Dieu, c'est souverainement humain. Et donc, refuser qu'on puisse parler de Dieu, c'est au fond un suicide de l'intelligence. Et c'est ce qui est le plus grave. On doit être capable de donner sa vie pour dire que c'est faux et on n'a pas le droit, l'État n'a pas le droit d'empêcher la recherche de Dieu et l'affirmation de Dieu. Il se met dans une attitude qui est fausse et donc on ne peut pas accepter. C'est ça qui est de si grave dans cette Europe qui se construit. Elle se construit comme un enfant mort, puisque elle se construit à partir d'une intelligence qui se tue elle-même. Et partir d'hommes qui ne veulent plus être des hommes au sens propre. Donc cette sagesse philosophique est naturelle. Elle doit pouvoir s'enseigner à tout homme de bonne volonté, à tout homme qui cherche. Et ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, surtout maintenant. La théologie et cette philosophie sapientiale au-delà de toutes les sciences. Elle peut s'en servir de toutes les sciences. On peut se servir des mathématiques pour la logique. On sait qu'on s'en sert. Et par le fait même, on limite l'intelligence qu'on a ou qu'on cherche à développer à ce domaine particulier des mathématiques. Et par les mathématiques de toutes les sciences modernes. La théologie est aussi une sagesse acquise. On l'acquiert. Et tout chrétien qui a la foi peut acquérir cette science, cette sagesse. Cette sagesse est science et sagesse. Comme la philosophie a une partie qui est scientifique, en quelque sorte, mais scientifique dans un sens de science aristotélicienne et pas science moderne. Il faut bien voir la différence. Hein. Les sciences modernes cherchent les lois. La science au niveau aristotélicien cherche la cause. Quelle différence y a-t-il entre la loi et la cause ? C'est une différence capitale. Hein. La loi est une relation entre antécédents et conséquents. Une relation nécessaire. La cause est un principe. La philosophie cherche les principes. Alors, la sagesse théologique, elle est science et sagesse. Et les deux sont toujours impliqués. Science et sagesse, sagesse subalternée à la science des saints. La théologie restera tant que nous sommes sur la terre et non pas dans la vision béatifique, radicalement imparfaite, science subalternée. Et c'est vrai qu'au point de vue de l'intelligence, on a beaucoup plus de satisfaction à faire de la philosophie que faire de la théologie. Notre cœur aime mieux faire la théologie, mais notre intelligence aime mieux faire la philosophie, la métaphysique. C'est plus satisfaisant pour l'intelligence, la métaphysique. Quand on passe d'un cours de métaphysique à un cours de théologie, la théologie ne satisfait jamais totalement l'intelligence puisque elle part de la foi. Elle est science subalternée. Science subalternée, mais sagesse. Donc il y a dans la théologie quelque chose que nous pouvons contempler. Et cela satisfait notre intelligence. Notre intelligence n'est satisfaite que dans la contemplation. Toute la partie raisonnement ou d'analyse ne satisfait jamais pleinement l'intelligence. Il y a une contemplation philosophique. Il y a une contemplation théologique. Mais cette contemplation théologique demeure toujours imparfaite et subalternée à la contemplation que nous n'avons pas encore, la vision béatifique. Alors, quand nous aurons la vision béatifique, la théologie reprendra toute sa splendeur pour saint Thomas. Saint Thomas, à la fin de sa vie, au dire de Réginald, de frère Réginald, avait envie de ne plus enseigner parce qu'il avait eu une vision beaucoup plus grande. Pas la vision béatifique, il n'en serait pas revenu. Et puis, en dernier lieu, nous avons cette théologie mystique, cette sagesse mystique qui se distingue, parce que cette sagesse, elle est acquise, mais pour exister, elle implique une sagesse mystique, personnelle, infuse. Je crois que je ne puis pas comprendre et développer cette théologie mystique sans avoir personnellement une expérience divine du mystère de Dieu, du mystère de l'Église, du mystère de la Vierge. Autrement dit, il s'agit de distinguer le don de sagesse qui est infus, que tous les croyants ont. Nous avons tous le don de sagesse, mais il s'exerce rarement pour certaines personnes, très rarement parfois. Pour quelqu'un de consacré à Dieu, ce don de sagesse s'exerce dans la raison. Notre raison est réservée à l'exercice du don de sagesse. C'est le temps que nous donnons. Et nous appuyons sur la parole de Dieu qui nous conduit directement à Dieu. Puisque une parole vivante. Nous avons par le don de sagesse une expérience personnelle, intime, du mystère de Dieu, du silence de Dieu qui se donne à nous et qui nous fait entrer dans cette sagesse mystique, divine, et qui nous fait vivre du mystère de Dieu, du mystère du Christ, du mystère de l'Église, du mystère de Marie. Il nous fait vivre du mystère personnel du Père, du Fils et de la très sainte Trinité et de l'Esprit Saint. Donc, il y a une connaissance mystique et c'est cette connaissance mystique que décrit saint Jean de la Croix. Si nous lisons saint Jean de la Croix en théologien scientifique, uniquement en théologien scientifique, alors ça ne va plus. J'ai eu la confidence d'un père dominicains qui me disaient, quand j'étais au noviciat simple, je lisais Saint Jean de la Croix avec délice. Quand je suis remis à lire Saint Jean de la Croix, ayant déjà 10 ans de sacerdoce, ça ne me disait plus rien. J'ai rien dit, puisque ce père était plus âgé que moi quand il m'a dit ça. Maintenant, il est mort. Et j'avais envie de dire, comme c'est triste, la théologie vous a empêché de lire Saint Jean de la Croix. Alors que la théologie devrait vous aider à lire Saint Jean de la Croix. Est-ce que la théologie vous empêche de lire la petite Thérèse ? Non, au contraire. Est-ce que la petite Thérèse fait de la théologie mystique ? Non. Elle décrit, je dis bien, elle décrit ce qu'elle a vécu avec Dieu, son union avec Dieu. Décrire ce que l'Esprit Saint nous fait vivre au plus intime de nous-mêmes, ce n'est pas strictement de la théologie mystique. C'est tout simplement mes expériences d'amour avec Jésus. Et normalement, on ne les écrit pas, sauf dans certains cas. Décrire ces expériences mystiques, c'est très bien, mais ce n'est pas de la théologie mystique. On décrit. Donc il y a une description de l'âme unie avec Dieu. Ça peut s'écrire. La théologie mystique, c'est de montrer comment la charité permet à la foi d'aller jusqu'au bout de ses exigences et permet de décrire, d'analyser le mystère même de Dieu. Vous voyez, l'aspect subjectif est beaucoup plus important dans le fait de décrire ces expériences mystiques. Quand vous lisez la petite Sainte Thérèse, Histoire d'une âme, et c'est très subjectif, hein. C'est divinement subjectif, mais c'est très subjectif. Vous n'allez pas imiter la petite Thérèse. Vous feriez une drôle de petitesse évangélique. On imite Jésus, on imite Marie, mais on n'imite pas Thérèse, même si on l'aime beaucoup. Et Thérèse, je vous donnerai des petites tapes, hein. Non, non. Regardez Jésus, regardez Marie. Mais Thérèse de l'Enfant Jésus nous est d'un très grand soutien à certains moments. Et si le théologien se met à lire la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, il essaie de comprendre ce qu'il y a de tout à fait caractéristique dans ce que Sainte Thérèse dit. Comment l'Esprit Saint a œuvré en elle. Comment l'Esprit Saint a permis qu'elle puisse avoir cette union avec le Père, le Verbe, le Christ et l'Esprit Saint, le Paraclet. Sous l'influence du Paraclet, on peut décrire cela. Et c'est la théologie mystique. C'est par le point de vue de la finalité qu'on décrit cette union d'amour spéciale avec Jésus, avec le Père. Cette union spéciale avec Marie. Cette vie spéciale de l'Église. Et pouvoir comprendre autant qu'on le peut comment progressivement le mystère de la grâce explicite, développe toutes les paroles divines du Christ. Sûrement que l'Esprit Saint agit en nous autrement qu'au Moyen-Âge. C'est le même évangile de Saint Jean. C'est la même grâce sanctifiante. C'est le même don de sagesse. Dans du Saint-Esprit. Mais nous vivons dans l'Église le début du troisième millénaire. Et si l'Église doit demeurer et vivre de ce troisième millénaire, au moins du début, je ne sais pas combien de temps, mais au moins du début, un jour, c'est déjà fait, donc je peux le dire, une année presque faite, 2001, 2002, c'est parce que l'Esprit Saint a encore quelque chose de nouveau à nous apprendre. C'est bien évident. Dieu ne fait pas lambiner sur terre pour rien. Il veut nous apprendre quelque chose. Et c'est pour ça que le théologien qui répète saint Thomas, c'est très bien, théologie scientifique de saint Thomas est la même au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. La théologie scientifique, c'est la même. Mais la théologie mystique, ah, c'est différent. Nous avons une vision de l'Église qui n'est plus tout à fait substantiellement, oui, mais il y a quelque chose de nouveau. On a proclamé la petite Thérèse docteur de l'Église. C'est quand même quelque chose, ça. On n'a pas fait ça au Moyen-Âge. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il fait ça? C'est la théologie mystique qui peut expliquer ça. Pas autrement. La théologie scientifique, non. La théologie scientifique de saint Thomas est la même pour Thérèse, la petite Thérèse et saint Thomas. Mais la petite Thérèse et saint Thomas, ils s'entendent très bien au ciel. Mais ils nous disent autre chose. La théologie mystique, elle est particulière pour notre époque. Nous vivons du mystère de l'Apocalypse autrement qu'au Moyen Âge. Nous vivons du mystère de Marie autrement qu'au Moyen Âge. Et cet autrement, il faut l'expliquer. Pourquoi ? Pourquoi ? Je l'explique pourquoi ? Par la finalité. Le dernier pourquoi ? Le pourquoi des pourquoi ? C'est la finalité. C'est que Dieu veut, à travers l'Église, transmettre sa vérité et surtout son amour, sa miséricorde. Nous ne dépassons pas le mystère du Christ. Mais le mystère de l'Église, ce n'est pas le mystère du Christ. Nous ne dépassons pas le mystère de Marie. Nous le vivons. Nous essayons de le vivre. Et la manière dont on le vit aujourd'hui est d'une certaine manière spéciale, différente que celle du Moyen Âge. Vous comprenez comment, si on supprime la théologie mystique, si on dit « Oh, c'est pas pour moi », un frère de Saint Jean n'a jamais le droit de dire ça. Jamais le droit. Il peut dire « Je ne comprends rien à ce que vous dites ». Ça, c'est possible. On lui dira « Attendez, dans 300, vous comprendrez. J'espère. » Très bien, on peut très bien pas te comprendre. Je comprends admirablement la théologie scientifique de saint Thomas, mais la théologie mystique, ça doit être bon sans doute pour les religieuses. Il y a beaucoup de pères qui diraient ça. C'est bon sans doute pour les religieuses. Parce qu'on identifierait théologie mystique et dévotion. Quoique la dévotion est aussi pour les moines. Et aussi pour les apôtres. Mais la ferveur, est-ce que la théologie mystique ne va pas exiger la ferveur ? Vous savez comment saint Thomas définit la ferveur, hein ? Alors ça, saint Thomas fait là de la théologie mystique, quand il veut définir la ferveur. Il prend l'exemple d'une marmite qui est sur le feu, rempli d'eau avec un couvercle. Quand le couvercle se met à se lever, c'est Claude au bout. C'est ça la ferveur. Ça fait sauter tout ce qu'on met comme logique. Parce que le couvercle, c'est très logique. Hein. Il se lève. Et c'est vrai. On est obligé de voir quelque chose qui dépasse la causalité formelle. On est en plein dans la causalité finale. L'eau bout et le couvercle se lève. Alors je crois que grâce au don de sagesse, grâce au don de pauvreté, de crainte, d'attitude des pauvres. La parole de Dieu prend tous ses sens. Elle devient un secret pour mon âme. Quelque chose de tout à fait particulier, mais qui reste objectif. qui n'est pas seulement subjectif, c'est ça le propre des dons du Saint-Esprit. C'est que les dons du Saint-Esprit dépassent la distinction objectif-subjectif, qui est une distinction humaine, pas divine. Dieu n'est jamais autant subjectif que quand il est Père, et il n'est jamais autant objectif que quand il est Père. C'est une distinction purement humaine, objectif et subjectif. Déjà, quand vous aimez quelqu'un, il vous dit « Ah, tout ça, c'est de la subjectivité. » Vous vous dites « Il n'a rien compris à l'amour. » Je me tais, tais-toi, il n'est pas la peine d'expliquer, mais il n'a rien compris à l'amour. Dans l'amour d'amitié, l'objectif et le subjectif sont dépassés. C'est ça qui est tout à fait particulier dans l'amour d'amitié. Puisque pour prouver l'existence de Dieu, je suis obligé de faire appel à ce qu'il y a de plus subjectif, l'amour. Je crois. On dépasse la logique. Parce qu'il n'y a pas de logique de l'amour. Il y a là quelque chose de très mystérieux que le théologien doit comprendre et essayer de respecter. Il y a une ferveur dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole d'un ami, d'un époux. C'est une parole d'ami et d'époux dans le Cantique des Cantiques. Mais l'aspect symbolique est très très fort. Hein. Mais l'aspect symbolique ne dérange pas la théologie mystique. L'aspect symbolique ne dérange pas ma description de la réalité divine. La théologie scientifique laisse tomber tous les symboles de la parole de Dieu. Et si Dieu parle par symbole, pourquoi parle-t-il par symbole ? Ah ! Pourquoi Dieu parle-t-il par symbole alors que Dieu nous enseigne ? Or, il parle par symbole. Cantique des cantiques. Le livre de la sagesse. Le symbole est tout le temps là. Et dans les histoires, Abraham qui immole son fils, qui a l'intention de l'immoler. Oh, quel drôle de morale. Ça a un sens. Dieu veut voir si Abraham aime vraiment Dieu plus que son fils. C'est un langage symbolique, hein. Tous les symboles sont récupérés en théologie mystique. Parce que le symbole parle proprement, non pas symboliquement, mais proprement pour l'amour. Ça reste symbolique pour mon intelligence. C'est évident. Je ne transforme pas les symboles, ils sont symboliques pour l'intelligence. Mais pour l'amour, ils expriment quelque chose. Il y a quelqu'un, celui qui n'aime pas, qui a l'audace de dire à celui qui aime et qui commence à parler par symbole, « Oh, ce n'est que symbolique. » Quand vous recevez une lettre de quelqu'un qui vous aime beaucoup, il parle symboliquement. Et le logicien qui est en vous, le rationaliste qui est en vous, tout ça, c'est symbolique. Tandis que si c'est l'homme, dit c'est touchant, la manière dont il m'aime, il y a quelque chose de beau, il veut exprimer quelque chose de très tendre, et il n'exprime pas en mode symbolique. Dieu nous parle par symbole. Il ne parle pas comme un mathématicien. Rarement, du moins. Je ne sais pas. Les mathématiques n'atteignent pas Dieu. La connaissance symbolique atteint Dieu. Ou plus exactement, c'est Dieu qui en parle symboliquement. Alors je laisserai tomber tout ça en disant c'est symbolique, ça n'a pas d'importance. C'est symbolique et ça nourrit votre cœur. Ça nourrit votre cœur, votre amour. Il y a des choses qu'on ne peut dire que symboliquement. Et la théologie mystique doit récupérer tout ça. C'est le propre de la théologie mystique. C'est en ce sens-là, vous voyez, que la sainte prédication, pour employer le mot de saint Dominique, la sainte prédication se sert de symboles. Quand vous êtes prédicateur, vous servez de symboles pour exprimer certaines choses et vous touchez la théologie mystique pour faire comprendre certains aspects. Vous voyez, quand saint Thomas veut montrer ce que c'est que la ferveur, il dit l'eau bouillante, c'est symbolique. Alors vous avez l'audace de dire, ça ne dit rien, symbole, pas intéressant. Ah, oh, pas du tout. Pas du tout. Le symbole donne une nourriture aux petits. L'intelligence liée au sens, liée à l'imagination. Elle aime le symbole. Il y a certaines choses que vous ne pouvez exprimer que symboliquement en théologie mystique. Pour exprimer le mystère de la très sainte Trinité, vous l'exprimez à la manière de saint Thomas. En se servant d'analogie par similitude. Et tout le traité de la très sainte Trinité est dans la lumière de l'analogie par similitude. Alors que lorsque saint Thomas nous parle des attributs divins, saint Thomas se sert de l'analogie de l'être. Ce n'est pas la même chose. Ces analogies de similitude sont très belles, c'est très beau. Le Verbe, le Fils. En théologie mystique, y a-t-il une troisième expression qui parle du Père, qui parle du Fils, qui parle du Verbe? Lorsque Jésus se dit le pain, la théologie des sacrements prise en théologie scientifique, c'est maigre. La théologie des sacrements, elle devrait se développer grâce à une théologie mystique, parce qu'on est en plein métaphore choisi par le Christ, l'eau, le pain, le vin. Jésus a commencé sa vie apostolique en transformant l'eau en vin. Ah, vous pouvez dire oui, c'est un miracle. Oui, un miracle. C'est un miracle vraiment très, très grand. et que les saints ne font pas beaucoup, il fallait l'audace du Christ pour faire ça. C'est vraiment audacieux. Vous auriez un père dominicain ou saint Jean qui commencerait sa vie apostolique de cette manière, quand même. Jésus a commencé sa vie apostolique par le premier miracle. Pour comprendre tout à fait le sens de ce miracle, il faut regarder la croix. Il manifesta sa gloire. Oh. À quel moment Jésus a manifesté sa gloire ? Lorsqu'il a dit à l'apôtre Philippe, « Philippe, qui me voit, voit le Père. » Obéissant au Père, manifeste le Père. Il y a constamment cet aspect de la théologie mystique pour les sacrements, dans le mystère des sacrements. C'est la parole du Christ qu'on saisit en tant qu'elle est porteuse d'amour. Elle est toujours porteuse d'amour, la parole du Christ. Toujours. La parole de Dieu est toujours porteuse d'amour. C'est toujours un secret. Mais nous sommes trop épais, trop lourds, trop humains, pas assez divins, pour comprendre cette parole qui est un secret pour nous et qui demeure un secret pour nous. Et tant que nous n'avons pas pris ce secret, découvert ce secret, on sent bien qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Vous voyez comment cette théologie mystique qui est distincte de l'expérience mystique, qui est distincte de la description de l'expérience mystique, qui est une théologie mystique, c'est saisir la parole de Dieu porteuse d'amour, spirans amorem. Comme dans la très sainte Trinité, le Père et le Verbe spirent l'Esprit Saint. Dans toute parole divine, il y a comme un écho de cette spiration que le théologien doit pouvoir saisir. Mais je ne fais pas la théologie mystique en premier lieu. La théologie scientifique doit se faire. Elle doit être à la fois au début et au terme, comme toujours la finalité. La finalité est au début. Il faut aimer la parole de Dieu pour faire de la théologie. Il faut aimer follement la parole de Dieu pour faire de la théologie. Et donc cet amour de la parole de Dieu est ce qui maintient en moi la soif de la théologie, parce que c'est une parole divine, c'est un mystère. Et je sais que cette parole divine n'exprimera tout ce qu'elle contient que lorsque je regarderai comme un secret pour moi et pour tous les chrétiens. C'est un secret. Les premiers chrétiens avaient un sens énorme de l'Eucharistie comme étant le secret de Dieu, le secret du Christ pour nous. Le mystère de l'Eucharistie, c'est bien le secret de Dieu, c'est le pain. Je suis Et Jésus qui dit ce qu'il est le pain, qu'il est la vigne. Il faut la théologie scientifique pour que ma théologie mystique ne soit pas folie. Qu'elle reste toujours une théologie, l'objectivité. À travers cette subjectivité qui se donne dans un secret. Rien n'est plus subjectif pour moi qu'un secret. Rien n'est plus objectif pour moi que les mathématiques. Il n'y a pas beaucoup de secrets mathématiques. Pourquoi ? Ah, parce qu'elle est coupée de la finalité. Ah, donc il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret mathématique. Y a-t-il des secrets métaphysiques ? Non. Parce que tout ce que le métaphysicien saisit, par le point de vue de la finalité, c'est le bien de tous les hommes, de la nature humaine. Alors vous allez me dire, tout ce que Dieu donne, c'est le bien du Fils de Dieu, de l'enfant de Dieu. Donc c'est universel. Oui, c'est vrai. Mais la parole de Dieu, comme parole de Dieu, je ne dis pas la théologie mystique. Il n'y a pas de secret dans la théologie mystique. Le secret, c'est la parole de Dieu que je reçois dans la foi et dans l'amour et qui me fait vivre. C'est mon secret. Ça, je ne le dis pas. C'est trop intime. On ne peut pas me l'enlever. Mais je l'exprime grâce à la théologie mystique. Vous voyez, il faut donc bien distinguer théologie mystique et le secret de la parole de Dieu qui, reçue à travers la foi et l'amour dans le don de sagesse, devient pour moi un secret. Et toute parole divine peut être pour moi un secret, sous l'action du Saint-Esprit. Subitement, je découvre qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens, là, on peut le dire, il est bon pour vous que je m'en aille. Moi, je me suis dit, quand Marie a entendu cette parole, il est bon pour vous que je m'en aille. Quand Marie a entendu cette parole, elle dit, mais c'est impossible. La présence de Jésus, c'est tout pour moi. C'est tout. Jésus ne peut pas dire pour moi. Et Jésus l'a dit pour le cœur de Marie. Il est bon pour vous que je m'en aille. Et Marie l'a reçu. Si Jean la répète, je crois que c'est grâce à Marie. Parce que je ne crois pas que Jean avait très bien compris. Mais par Marie, il a compris. Marie, recevant cette parole de Jésus, il est bon pour vous que je m'en aille. Autrement, vous ne recevrez pas le paraclet. Marie a reçu le Verbe incarné, tout petit enfant. Elle a vécu 33 ans avec lui. Toutes ses paroles étaient des secrets d'amour. Et Jésus dit ça. Et Marie n'a pas dit, « Ah, ça c'est bon pour Jean, ça c'est bon pour Pierre, ah, c'est bon pour André. » Oui, ça apprendra de profiter de la présence de Christ. Parce que il n'en profite pas beaucoup, la présence du Christ. Marie n'a pas dit ça. elle savait que c'était bon pour elle aussi. Et c'est pour ça que Marie n'a pas disparu au moment où Jésus est mort sur la croix. Il fallait que Marie reçoive le paraclet. Et que tout ce qu'elle a vécu avec Jésus soit vécu de nouveau sous l'action du paraclet. Bien. C'est sous l'action du Saint-Esprit que nous découvrons ça. Bon, j'avais lu cette parole combien de fois, je ne sais pas. Puis subitement, on dit, mais cette parole dans le cœur de Marie. Un secret. Et puisque c'est dans le cœur de Marie, c'est dans notre cœur. C'est pour nous. Il est bon pour vous que je m'en aille. Subitement, la parole de Dieu prend une signification nouvelle. Au début du carême, demandez au Saint-Esprit de vous faire vivre d'une parole du Christ dans Saint Jean, pour en découvrir le sens mystique, le secret d'amour. Et passez toujours par Marie. Elle a gardé cette parole dans son cœur, sous l'action du Saint-Esprit. Marie et Jean n'ont pas fait de théologie mystique. Mais il nous faut comprendre qu'on ne peut pas s'arrêter à la théologie scientifique et à la sagesse de saint Thomas de la Somme. Cela est nécessaire pour nous. Il faut le connaître. La Somme de Thomas d'Aquin, c'est un grand mystère pour nous. Il faut aller plus loin. Il faut développer cette théologie mystique à partir de la parole de Dieu, à partir de l'évangile de saint Jean. À partir de toute parole révélée. Mais surtout à partir de l'évangile de saint Jean. C'est notre rôle, ça. En ayant la théologie scientifique pour bien voir que ce qu'on dit n'est pas de nous, mais c'est la lumière du Saint-Esprit qui nous fait découvrir ce qu'il y a de si profond dans la parole de Dieu. Sainte Catherine de Sienne avait bien compris ça. Quand elle parle de la parole de Dieu, elle donne la métaphore merveilleuse d'une noix. La parole de Dieu, comme une noix. Alors, on regarde la parole de Dieu humainement. Un philosophe qui lit la Bible, il la regarde humainement. Dieu parle un langage que le philosophe peut comprendre. Alors, c'est comme si on saisissait une noix qui est encore sur l'arbre. Vous avez déjà fait cette expérience, hein? Quand vous étiez gosse, c'est très amer. L'écorce de la noix est très amère. Ah, vous pouvez enlever toute cette écorce verte, très belle, verte. Mais c'est amer. Puis qu'est-ce que vous tombez? Vous tombez sur du bois. Hein? Et puis il faut enlever le bois. Puis découvrir le fruit. Et le fruit, il faut découvrir la petite pelure. C'est curieux, hein? Quand on regarde la parole de Dieu et qu'on met cette métaphore merveilleuse de Sainte Catherine, on trouve tous les moyens d'exprimer les sens de la parole de Dieu, le sens exégétique, historique. On ne va pas plus loin. Ah, quelquefois, ça va un peu plus loin. L'écorce dure, il faut la casser. Puis on découvre le fruit, puis on enlève encore la petite pelure, et on découvre le secret. Sous l'action du don de sagesse, je découvre ce secret, je le communique aux autres, j'essaie de le communiquer aux autres, je peux le communiquer aux autres, c'est un secret. Et on essaie de comprendre la richesse et la splendeur de la parole de Dieu.